Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Emeline Amétis.
C'est parti!
Se venger bec et ongles des hommes violents, telle est la mission de Cassie, jouée par Carey Mulligan dans Promising Young Woman, premier film attendu au tournant de l'anglaise Emerald Fennell en salle actuellement. On en parle avec Emeline, puisque ça aussi, c'est un portrait de la jeune fille en feu, et quel feu! Promis, on ne va pas vous spoiler.
Je vais te dire, ces nanas, elles cherchent les emmerdes. À son âge, elle devrait savoir ce qu'elle risque, non?
Je dois m'allonger. Qu'est-ce que tu fais?
Tout va bien, tu risques rien.
Qu'est-ce que tu fais?
Hé, hey, j'ai dit qu'est-ce que tu fais?
Alors, est-ce que tu peux nous faire d'abord le pitch de ce film?
Cassandra, c'est une jeune trentenaire qui travaille comme caissière et barista dans un café où l'on devine qu'on sert latte, lait d'amande et frappuccino hors de prix à une population qui ne rougit pas de la gentrification. Rien de socialement acceptable sur l'échelle de l'ambition, donc. Mais avec Cassie de son surnom, il convient d'aller au-delà des tristes apparences. C'était une jeune femme promise à un avenir brillant, d'où le titre, parmi les majors de sa promo en faculté de médecine. Jusqu'à ce qu'un événement traumatisant lui fasse lâcher définitivement les études. C'est la disparition de sa meilleure amie, Nina, qui la poussera à consacrer toute son intelligence à sa nouvelle vie de vigilante, de redresseuse de tort qui écume les bars et traque les prédateurs sexuels, des mecs dont la technique d'approche consiste à ramener une partenaire ivre chez eux et à ignorer son consentement.
Chaque semaine, je vais dans un bar et je fais semblant d'être trop saoule pour tenir debout. Et chaque semaine, un mec gentil vient voir si ça va.
Tu es jolie comme un cœur.
À vrai dire, c'est même plus complexe qu'une traque. Elle ne cible personne, elle fait semblant d'être ivre et attend patiemment qu'un nice guy se pointe. Les choses prennent systématiquement une autre tournure quand ces joyeux lurons se rendent compte que Cassie est en réalité sobre.
I need to go home.
Holy shit, whoa, what is this? Are you some kind of psycho or something?
Why'd you say that?
I just thought that you were...
Drunk?
Yeah.
Really drunk?
Fuck. Yeah.
Well, I'm not. But that's good, isn't it?
I think you should leave.
Oh, now you want me to leave?
No, I just... I'm really high. Like, I'm really fucking high right now. I don't know what I'm doing. I think you should go.
But a second ago, you were determined for me to stay. You were pretty insistent, actually.
I'm a nice guy.
Are you?
En tout cas, ça c'est en première partie du film, puisqu'elle va faire une rencontre opportune qui va lancer un plan de vengeance bien plus cruel et qui va se dérouler en quatre actes. Alors, on va parler de ce qui a attiré notre attention.
Oui, alors ce qu'il faut savoir sur ce film, d'abord pour la forme, Promising Young Woman joue constamment sur les codes du genre, donc ce thriller est une plongée assez cauchemardesque dans une psyché traumatisée et franchement assez furax. C'est aussi ce qu'on appelle un rape and revenge, donc le genre du viol et de la vengeance, tout comme une autre série qui s'appelle Sweet Vicious, qui a été annulée mais que je vous recommande néanmoins. Et c'est donc un trauma qui constitue le cœur battant du film, qui irradie, et on va en apprendre un peu plus au fur et à mesure, comme dans une enquête ou un polar. On va parler du fond maintenant, c'est un récit haletant qui examine plusieurs volets de ce qu'on appelle la culture du viol. Donc d'abord la masculinité toxique des hommes privilégiés, le consentement dans un contexte d'alcoolisation, le viol en réunion, le rôle des réseaux sociaux, la complicité des femmes, l'impunité face à la justice et surtout la place de ce qu'on appelle les nice guys, donc les gentils garçons, et la banalité des violences sexuelles, puisque celles-ci ne sont pas renvoyées simplement à des figures de monstres ou à des exceptions comme dans l'affaire Weinstein. Au contraire, ce sont des personnes ordinaires et cette violence est polymorphe. D'ailleurs, ça nous rappelle la série de Michaela Coel, I May Destroy You, ainsi qu'un article de Maya Mazorette qui est sorti le mois dernier et qui s'intitule « Sexualité quand les femmes ont peur des hommes ». Le clin d'œil est d'autant plus savoureux puisque tous ces gentils garçons qui défilent à l'écran sont joués par des ex-stars de teen movie comme Adam Brody qui jouait dans Newport Beach et Christopher Mintz-Plasse qui jouait dans Supergrave.
C'est un film qui se place à la frontière entre thriller, comédie noire et comédie romantique gênante et qui présente un féminisme conquérant au lance-flammes, plutôt à la truelle, mais qui parle aussi de la puissance de destruction d'un traumatisme, de l'amitié féminine et du deuil. Il est construit comme une fable féministe et l'image est souvent lourde d'allégories.
Oui, surtout, et c'est vraiment d'actualité, il pose un certain nombre de questions urgentes, notamment la question de la violence des femmes et cette question éternelle, faut-il faire justice soi-même ? Je ne sais pas si le film y répond réellement, mais en tout cas, justement, puisque la vengeance est un plat qui se mange froid, le film marque le retour à ces tonitruants de la comédienne britannique Carey Mulligan, En Majesté, que l'on a découvert dans le film initiatique Une éducation, puis dans Drive. Impassible, elle joue ici une ratée géniale, donc une loseuse magnifique. Et à travers le parcours de cette héroïne catatonique, le film montre bien, effectivement, comment certaines catégories de la population sont soumises au décrochage d'études ou de carrières suite à des violences.
Le film, il interroge aussi sur ce qu'on trouve jouissif. C'est d'ailleurs le premier film d'Emerald Fennell. On l'a vu jouer Camilla Parker Bowles dans The Crown et elle a été autrice sur quelques épisodes de Killing Eve. Promising Young Woman, ça a été aussi produit par la comédienne et productrice australienne Margot Robbie, qui milite en faveur d'un cinéma plus féministe. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu dans l'horrible scène de viol conjugal dans Le Loup de Wall Street. Soit dit en passant, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque que dans la salle, tous les mecs se marrent, mais j'y reviendrai plus tard. On note aussi la bande originale pop d'exception, Charlie XCX, It's Raining Men des Weather Girls, les Spice Girls, Paris Hilton, et la version grinçante de Toxic par le musicien Anthony Willis. À présent de la réception du film.
Oui, effectivement, c'est un film qui suscite un certain nombre de débats. D'ailleurs, dès sa présentation au festival de Sundance, il a fait grand bruit. Les féministes ont apprécié sa misandrie, puisqu'il n'y a pas vraiment un homme pour en rattraper l'autre dans ce film.
Ah.
Et pourtant, un œil non averti pourrait baisser la garde à certains moments. Quelque chose d'autre qu'on peut noter, c'est la manière dont la réalisatrice a été interviewée dans la presse, puisqu'on lui a sans cesse demandé si elle-même avait été victime de violence, et donc c'est assez pénible de toujours renvoyer les femmes artistes à leur biographie.
And talking about, it's a bit of a reflection on the Me Too movement that everybody's talking about. Was that there ever present throughout, you know, filming it, or is it just an illustration?
It really never kind of. Obviously, we have all been aware of it, and we've, you know, and we talk about it a lot, and as we should. But I think this story felt so. This felt like one person's experience, and very, you know, all of us, everyone on the crew, we could all relate to it when we were doing it. But it wasn't sort of. There was no feeling of us doing something as part of it. This was a story that has been. You know, that has been part of our lives forever, has been as men and women, and so it didn't feel. And someone asked earlier, did I feel a responsibility towards women of sort of playing this part? And I really didn't. Like as an actor, I just felt sort of in this.
Tout à fait. Et puis les féministes ont peut-être adoré, mais évidemment, Carey Mulligan n'a pas pu éviter les critiques sexistes. Elle aussi, elle serait, je cite, pas assez sexy pour incarner une femme fatale.
What?
Bah, ça, c'est selon un vieil homme blanc de 60 ans, critique ciné chez Variety.
Ok.
Ouais, voilà. Donc, franchement, dit comme ça, on dirait presque une blague. Mais malheureusement, c'en est même pas une. Il a été très loin dans la mesquinerie, allant carrément chercher du côté du slut-shaming. Et franchement, ça fait chier de voir que même sur des films qui tiennent de tels propos, il y a ce genre d'inepties qui non seulement ont été écrites, mais aussi relues et publiées, quoi. Voilà.
Il y a un petit problème dans la chaîne de production de l'information, effectivement.
Ouais.
Heureusement, il y a eu aussi des critiques plus constructives, notamment sur l'une des scènes finales, donc on ne va pas vous dévoiler les enjeux, mais en tout cas, sachez que cette scène a fait débat, qu'elle a notamment été taxée de voyeurisme et que les retournements de situation du film ont également provoqué la controverse. Je me permets de vous renvoyer vers un article intéressant qui s'appelle The Disempowerment of Promising Young Woman, qui évoque le fait que le personnage, qui est en fait en creux au cœur de l'histoire, n'a pas de voix et n'a pas droit au chapitre. C'est le personnage de Nina. Et certaines personnes ont trouvé cela gênant. Évidemment, c'est un parti pris dans le film, mais il peut être discuté.
Oui. Malgré tout, le film a été nommé aux Oscars et il a reçu aussi le prix du scénario. C'est plutôt pas mal comme parcours pour un premier film. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de Promising Young Woman ?
Oui, évidemment, je pense que dans ce podcast, on est un petit peu attendu sur ce type de film. Et justement, c'est un film compliqué. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le mouvement MeToo a produit depuis quelques années un certain nombre d'objets, de discours et d'images. En voilà un exemple parmi d'autres qui, à mon avis, se situe quelque part entre la sincérité et l'opportunisme. C'est-à-dire que c'est un sujet éminemment d'actualité, même si on peut concevoir qu'il soit difficile à produire au sein de l'industrie. Moi, j'ai été vraiment hypée à propos de ce film depuis plusieurs mois par sa réputation qui le précède. Et donc, forcément, je suis un peu déçue. Et donc, je suis un peu ambivalente par rapport au film. Et je pense que c'est aussi un reflet du fait que le film lui-même ne sait pas toujours très bien où il va ni ce qu'il veut vraiment dire. Mais d'abord, je voudrais souligner ce qu'il y a de positif, ce qui m'a plu. En effet, la première partie du film est assez enthousiasmante, c'est certain, puisqu'il y a quelque chose de grisant, comme dans Birds of Prey, Gone Girl ou même Wonder Woman, à voir une femme se venger et réaliser à l'écran nos fantasmes les plus interdits, les plus transgressifs. Et c'est vrai qu'on a soif de ces récits-là. Le film est ultra misandre, même moi ça m'a choquée. Il est vraiment accablant, enfin il est d'une noirceur assez incroyable. Et évidemment, ça parle en filigrane de culpabilité, ce qui est assez ironique, puisque Hollywood aujourd'hui fait son mea culpa très tardif après avoir protégé et même encouragé des agresseurs sexuels pendant des années. Ensuite, on peut émettre, je pense, un certain nombre de réserves. D'abord, le fait que la mise en scène vienne surligner assez lourdement l'écriture. Pour moi, cette espèce de tournée des grands-ducs manque un peu de subtilité, précisément parce que beaucoup d'hommes sont coupables. Je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter avec des effets de manche. Et contrairement à la série dont on parlait tout à l'heure, I May Destroy You, là, il y a tout un discours du personnage sur les violences sexuelles qui, à mon avis, n'est pas nécessaire puisque les images parlent d'elles-mêmes et donc ça me paraît un peu redondant, un peu lourd. Évidemment, cette démonstration est implacable, mais par moments, elle est trop manichéenne, démagogique, complaisante, voire même racoleuse. Je pense qu'on peut évoquer là ici encore la fin du film.
Oui.
Évidemment, les violences sexuelles, c'est mal, mais je pense que ce constat n'est pas suffisant. Donc j'apprécie cette manière très frontale de mettre les pieds dans le plat. Peut-être qu'elle est synonyme d'un moment où on va tout défoncer et ensuite on pourra faire dans la dentelle, je ne sais pas. En tout cas, moi j'attends qu'un film soit plus intelligent que moi et là je trouve que le film se contente d'en savoir plus long que nous. Voilà, j'y reviendrai après. Et toi alors, est-ce que ça t'a plu ?
Ben oui, alors j'avoue, j'ai aimé. Faut dire que je suis bonne cliente, que j'apprécie depuis longtemps Carey Mulligan et qu'elle y est incroyable. Hein. Mais surtout, j'ai ri. J'ai ri jaune. Hein. Il y a des scènes de comédie grinçante. Ce qui s'y passe n'est pas foncièrement drôle, on est d'accord là-dessus. Ça ne l'est même pas du tout, c'est une évidence. Mais ces scènes le sont malgré tout parce qu'elles sont trop réalistes en même temps qu'elles sont grossières. C'est sans doute parce qu'elles ne sont pas assez subtiles justement qu'elles sont justes. Dans un sens, ça m'a fait penser à Get Out de ce point de vue-là. Et Get Out manquait aussi de subtilité. Enfin, ça dépend dans l'œil de qui après. Trop de subtilité tue l'humour, selon moi. Et si c'est au service de ce rire-là, je trouve que le manichéisme est justifié. Ces scènes de comédie noire, on les doit aussi, surtout, au casting de personnages antagonistes principalement issus de l'univers de la comédie. Adam Brody, tu l'as dit tout à l'heure, Connie Britton de Friday Night Lights, Alison Brie de Community, ou encore Max Greenfield de New Girl. Les malaises sont réussis parce qu'on a de grandes chances de les associer naturellement à des rôles positifs. Et là encore, on revient à cette idée de violence polymorphe. C'était voulu même iconographiquement parlant. Les couleurs vives au cinéma sont traditionnellement plus fitées pour les comédies. Et là, pourtant, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, c'est un tour qui a marché sur moi dès le début. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le pied de nez au film Very Bad Things de Peter Berg, qui est sorti en 99, où le ressort comique reposait sur l'homicide involontaire d'une travailleuse du sexe non blanche.
Trop drôle.
Ouais, archi drôle. Une manière de révéler avec cynisme le tragique de ce qui faisait rire le public aux éclats il y a seulement quelques années. Emerald Fennell l'a fait en connaissance de cause. Elle explique même dans une interview à l'American Film Institute que c'est le point de départ de l'écriture du scénario.
It's hard to know exactly what the germ was, but I think it was just being a woman who grew up watching movies and, you know, going to university and all of the stuff where picking up drunk girls or sleeping with people when you were blackout drunk was just treated as a gag. Like there was nothing. Like the first thing I said when I was pitching Promising Young Woman to everyone is there's nothing in it. There's literally nothing in it, including the worst thing in it that we haven't seen in a comedy and laughed at.
Est-ce que tu as d'autres réserves au sujet de Promising Young Woman?
Oui, c'est un peu l'amour vache, donc je vais continuer. Je pense qu'il y a quelques problèmes d'écriture à propos de ce personnage, de Cassie, qui m'a rappelé le personnage de Fleabag, joué par Phoebe Waller-Bridge. Ces deux héroïnes ont en commun d'être endeuillées, d'être anesthésiées par la mort de leur meilleure amie. Mais ici, on s'interroge sans cesse, Cassie est-elle psychopathe, sociopathe, est-elle folle, est-elle saine d'esprit, tout ça à la fois. Pour moi, cette manière d'immiscer le doute en pathologisant peut-être le personnage contribue à le rendre grotesque et surtout à délégitimer la colère des femmes. Alors évidemment, toutes les manières de faire son deuil sont légitimes, mais ici, on n'a pas l'impression que ce soit bénéfique pour le personnage, que ça lui apporte quoi que ce soit ou que ça change quoi que ce soit à cette situation, en tout cas d'un point de vue systémique. Et pour le spectateur, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un peu court, c'est pas toujours très satisfaisant, surtout, je pense, à un moment où elle s'en prend à d'autres femmes qu'elle va traumatiser en retour. Mmh. Moi, ce sont des scènes qui m'ont mise très mal à l'aise, ce qui n'est pas inintéressant par ailleurs. Mmh. J'ai aussi une certaine aversion pour le chantage à la culpabilité moralisante, qui est très américaine au demeurant, quand bien même la cinéaste et l'actrice sont britanniques, je ne l'ai pas oublié. Et parfois, je me suis sentie un peu prise en otage par le dilemme moral posé par ce film. Je n'ai pas tellement goûté les nombreux retournements de situation. Et je pense que le mélange des genres, donc entre thriller, réalisme noir, est pertinent, notamment lorsqu'il parodie la comédie romantique, tu l'as souligné, et cette idée que si tu es un homme gentil, tu mérites forcément du sexe, alors que non. Mais pour moi, le mélange des genres peut aussi nuire aux propos, puisqu'il faut avoir une maîtrise absolue pour réussir cet équilibre-là. Pour moi, ça contribue un peu à brouiller les pistes, notamment, encore une fois, parce que les références ne sont pas toujours très subtiles. Donc, on pense à Kill Bill, on pense au christianisme, voilà. Après, effectivement, il faut rappeler que c'est un premier film et que, contrairement à moi, on peut être indulgente. Voilà. Oui. Quoi d'autre ?
Eh bien, écoute, moi, en ce qui concerne la pathologisation du personnage, j'en ai surtout vu la critique, notamment grâce à une scène qui précède le dénouement. Personnellement, à aucun moment, j'ai pensé Cassie atteinte de troubles psychologiques, et ce même dans un moment où elle explose de colère contre un automobiliste insultant. Elle ne fait que retourner la violence de ses mots sur sa voiture. Les seuls personnages qui la pensaient atteinte, au final, c'était des personnes qui faisaient figure d'autorité et ou qui étaient convaincues de leur propre bonté, de leur propre sanité. La seule chose qui transparaissait, au final, c'était l'incapacité de Cassie à faire pleinement son deuil et à dépasser les étapes de l'auto-culpabilisation et de la colère foudroyante. Tu l'as dit, le film examine plusieurs facettes de la culture du viol, la délégitimation de la colère des femmes, oui, la pathologisation psychophobe et misogyne, tout ça, eh bien, en fait, ça en fait partie. Mais je comprends, malgré tout, que tu te sois sentie prise en otage. Ça a été aussi mon cas. Il y a plusieurs scènes qui mettent mal à l'aise parce qu'elles sont profondément cruelles et qu'elles perdent de leur sens féministe en voulant aller trop loin dans le jouissif. Voilà.
Bon, j'espère qu'on a fait le tour de la question. Dites-nous si vous avez envie de voir le film ou si vous l'avez vu. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @QuadMeuf. Vous pouvez aussi trouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long où l'on parlera de Mater Guinité. Merci, salut Emeline.
Salut.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Emeline Amétis,
prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, mixage Laurie Galligani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation, montage et coordination Ashley Tola.